Je vous salue Marie.
Pleine de grâce, le
De quelques passages à risque. Il est bien évident que nous avons déjà évoquer quelques passages à risque ici ou là dans les entretiens. Je voudrais en revisiter quelques qui me paraissent importants pour pas tomber dans le ravin. Persévérance dès les premiers pas de la conversion. Quelle est la difficulté actuelle par rapport aux générations passées? C'est qu'aujourd'hui, il y a un côté tout de suite. On peut obtenir tout de suite. Un double clic et t'as ça chez toi le lendemain. Merci, monsieur Amazon. Et cela crée, qu'on le veuille ou non, une mentalité. Et donc une mentalité spirituelle. Nous sommes dans le monde. Et donc, pour un catholique, il imagine qu'un seul acte, un seul acte de vertu, hop, j'exige tout de suite que cela produise un changement, une pacification, un renouvellement, un changement visible. Et comme la plupart du temps, ce n'est pas le cas, alors nombreux ceux qui baissent les bras, se découragent, reprennent leurs mauvaises habitudes. La sagesse de saint Thomas précise « Tout acte de charité mérite l'accroissement de la charité. Non pas que cet accroissement ait lieu aussitôt, mais seulement si l'on a fait l'effort pour cet accroissement. » Il doit avoir une petite image aussi dans ses écrits. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte de vertu ne produit pas automatiquement un changement. On comprend mieux pourquoi la vertu des vertus à demander aujourd'hui, c'est la persévérance. Un vieux prêtre, avec tout ce que cela a de noble, dans l'expression, disait à un garçon qui allait être ordonné, dont il avait dû s'occuper, je pressens, soit un feu qui dure et pas un feu qui flambe. Il y a beaucoup de flambeurs, indépendamment de la Ferrari et des pompes qui brillent. Il y a beaucoup de flambeurs en matière de vie spirituelle. Il faut demander la grâce à être des feux qui durent. La loi est un pédagogue, la loi morale, qui est là pour nous guider et nous aider. Mais lorsque la vertu, la pratique assidue de la loi, commence à s'ancrer davantage dans la vie, nous avons moins besoin du tuteur de la loi. Et nous la considérons de manière positive. Dans les débuts, c'est ce que vous entendez de la part de tout le monde médiatique, comme quoi la foi catholique, c'est des trucs castrateurs, c'est des étouffoirs. C'est pas trop la peine de jouer à l'escrime. Vous les laissez dire. La plupart du temps, c'est irrationnel. Ils sont dans leur monde. Paul VI, 76. L'ascèse de l'esprit demande de la force, une attention constante, ainsi qu'une courageuse renonciation aux séductions du monde. Il nous faut faire preuve d'une vigilance incessante et nous en départir en aucun prétexte. Chaque jour, il nous faut au contraire affermir cette attention constante jusqu'au terme de notre parcours terrestre. Il s'agit là d'une lutte contre soi-même que nous pouvons assimiler à un lent et long martyr. Oh, ça fait du bien, les gens qui appellent les choses par leur nom. L'Évangile nous exhorte clairement à cette lutte. Le royaume des cieux souffre violence, et ce sont des violents qui s'en emparent. Pas des violents au sens de ceci, mais la violence du désir, la violence de la volonté. Un petit détour par le pari de Pascal est intéressant pour une petite échographie du bocal catholique. Blaise Pascal menait une vie de libertin, on dirait aujourd'hui de patachon. Et il comprenait par son expérience, avant sa conversion, que l'homme est une unité de corps, d'esprit et d'âme. Et quand il relit son histoire de conversion, il a parfaitement saisi qu'il était très difficile d'élever l'âme vers les vérités éternelles lorsqu'on laisse la partie corporelle et le psychisme sombrer dans la bassesse. Cette schizophrénie ne peut pas durer longtemps. La partie animale finit par entraîner la personne tout entière vers le bas. C'est ainsi que Pascal propose aux libertins, comme à toute personne de bonne volonté, de réaliser tout d'abord dans sa chair la première conversion qui est morale. Ceci afin de faciliter la deuxième conversion qui est théologale, c'est-à-dire le basculement dans la foi. Il propose de réformer la vie afin de favoriser la foi, de vivre comme si on avait la foi, c'est-à-dire en correspondance sincère avec les principes de la morale chrétienne, et cette disposition ne peut que faciliter le basculement dans la foi. Et ça interroge actuellement, me semble-t-il, certaines pastorales à l'intérieur de l'Église. Il suggère, sans attendre d'avoir la foi, de vivre dans la lumière, afin de mieux découvrir un jour cette lumière. Il propose donc de maîtriser la partie animale de notre être afin de la disposer à la pureté de la vérité. Voici ce qu'il dit. J'aurais bientôt quitté ces plaisirs, disent les libertins, si j'avais la foi. Et moi, je vous dis, Pascal, vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté les plaisirs. Quel saint réalisme! Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, et je suis pour l'évangélisation autour du kérigme. Ah, c'est ça l'important. Ok, puis la morale à la trappe. C'est absolument irréaliste. C'est une méconnaissance de l'anthropologie. Et ces conversions ne dureront pas longtemps. Bien évidemment, le théologal prime sur le moral. Mais la partie basse t'attire vers le bas. Et si tu penses que tu vas annoncer que le kérigme Jésus ressuscité, alléluia, et ça suffit, bah vas-y, y a pas de problème. Tu vas voir, le service après-vente va être sympathique. Autre passage à risque. Quand Dieu s'approche de nous, lorsqu'une âme est vraiment désireuse de s'unir à Dieu, c'est votre cas. Vous ne seriez pas venu, vous seriez à la plage, il fait beau les amis, enfin qu'est-ce que vous avez dû faire? Remarquez, cette nuit on a bronzé tous, hein, devant le soleil divin. D'ailleurs je vous êtes méconnaissable, je vous signale. Pas besoin mesdames d'aller faire un petit lifting ou séjour avec des UV, hein. Quand Dieu sent une âme qui a le désir de lui, que fait-il? Il est l'époux. Il va s'approcher de l'épouse désireuse, de l'union, c'est-à-dire ton âme. Le problème, c'est qu'il faut que tu t'attendes à quelques surprises. Le père Mariogène parle d'antinomie. C'est-à-dire qu'il va se passer pas exactement ce que ta sensibilité et ton imagination attendent. Tu as des scénarios sur Dieu. Le Dieu en live, c'est autre chose que sur des disques rayés, de trucs de copier-coller. Alors il va y avoir deux domaines où il va s'approcher. Qu'est-ce que j'essaye de dire là? C'est la parabole de petite Thérèse. Vous savez le petit enfant au pied de l'escalier? Papa est au premier étage. Et le petit enfant veut essayer de monter l'escalier, il commence tout juste à savoir marcher. Et il est au pied de l'escalier, il n'a même pas franchi la première marche. Il lève son petit pied comme il manque d'équilibre. Derrière par terre, c'est la faute à Voltaire. Et puis il se remet en selle et il lève son petit pied. Et puis il retombe. Il a des bleus, je pense. Et puis papa qui est au premier étage, qui entend et qui voit. Ah, tu me fais craquer mon petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, il va te prendre sous les aisselles. Et Thérèse dit, c'est la doctrine de l'ascenseur. Et il va t'emmener. Dieu ne peut pas nous hisser au premier étage s'il ne voit pas notre bonne volonté à franchir ne serait-ce que la première marche. Je vous ai dit, il ne prend que la place qu'on lui donne. Ça, c'est aussi un truc que j'ai découvert dans les retraites. Ne pensez pas que je sois laxiste. Mais pour moi, de plus en plus, c'est pas les péchés des gens qui sont un problème. C'est les manques de faim. Dans les retraites sacerdotales, c'est les manques de faim que je demande à voir. Car si la personne a faim, Dieu, lui, il a terriblement faim d'elle. Et il ne se donne qu'à la mesure de la faim. Un type qui est complètement réglo, mais qui n'a pas faim. L'Apocalypse dit, je te vomis. Tu n'es ni froid, ni chaud. Tu es tiède. Bien. Lorsque Dieu va s'approcher de nous, voyant que nous le voulons, il ne peut pas renier ce qu'il est, dit le père Marie-Eugène. Il est pure lumière. La lumière s'approchant de moi, qui suis un mélange de lumière et de ténèbres, cela va mettre en lumière les ténèbres. Et ce qui fait que, traduisez ça très concrètement, vous avez 10 ans de bouteille de vie chrétienne, vous êtes un converti ou un reconverti ou un refiancé, et puis vous découvrez qu'au bout de 10 ans, les 10 ans du militant, dirait Madeleine Delbrel, 10 ans de mariage, 10 ans de sacerdoce, 10 ans de vie religieuse, vous vous trouvez plus piteux qu'au début. Cela peut venir de votre faute si vous êtes dans le laisser-aller, mais cela peut venir de Dieu qui s'approche. C'est donc une immense grâce de se voir plus minable qu'avant. C'est en fait Dieu qui s'est approché. Mais comme tu as de la peine à l'analyse réflexive de ton âme, tu comprends pas, tu peux pas comprendre ce que Dieu fait en totalité. Tu vas comprendre certaines choses, mais... Et donc tu vas voir cette antinomie. Tu vas te voir plus pécheresse qu'au début de ta vie consacrée, par exemple. Plus minable que dans le début du mariage, etc. Et c'est une expérience extrêmement douloureuse, mais une expérience fondamentale. Tenez-vous, Faustine, étant donné qu'elle ne va pas vivre longtemps, 33 ans, l'âge du Christ, et qu'elle a une mission énorme, donc, chez ces êtres-là, Jésus fait un traitement de cheval. Parce que ça doit être des êtres de cristal, parce qu'ils vont devoir donner le cristal au monde. Et donc, elle est folle de joie de rentrer au monastère. Pour elle, c'est le paradis. Et au bout de 6 mois, Jésus s'approche très fort d'elle et elle se voit toute pécheresse. Et là, elle en tombe malade, vous m'entendez? Dieu fait tomber malade. On est inadapté à Dieu. Heureusement qu'il est extrêmement délicat. Comment va-t-elle s'en sortir? Elle dit en substance ceci: j'ai 2 yeux. D'un œil, je regarde ma misère, mais je ne fais pas comme quand je suis tombée malade. De l'autre œil, je regarde la miséricorde de Dieu sur cette misère. Et là, elle va sortir. Et il va lui donner d'annoncer la miséricorde, parce que cette miséricorde, elle en a fait l'expérience, parce que cette miséricorde a traversé sa chair et son expérience de sa propre misère. Dans ma vie intérieure, je regarde d'un œil l'abîme de misère et d'abjection que je suis, et de l'autre l'abîme de ta miséricorde, ô Dieu. Je suis de plus en plus persuadé qu'on proposerait une expérience très profonde de la miséricorde dans les hôpitaux psychiatriques, qu'il y aurait des guérisons. J'en suis convaincu. Il y a beaucoup de détestation chez les catholiques. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde, mais moi, j'ai affaire à lui. Il y a beaucoup de détestation d'eux-mêmes, beaucoup de visions extrêmement négatives des personnes sur elles-mêmes qui viennent de cette expérience de la miséricorde qui n'a pas encore été faite. Alors, bien sûr, on en a plein la bouche de la miséricorde aujourd'hui dans l'Église. Je vous signale juste que quand elle n'est pas articulée avec la justice, c'est du pipeau. C'est une contrefaçon. Le seul carrefour où la miséricorde te rejoint, c'est ta misère. Voilà pourquoi, si vous voulez faire une expérience authentique et pas tous ces discours de pommade qu'on entend sur la miséricorde, une vraie expérience de la miséricorde, la condition, c'est de descendre dans tes bas-fonds. Et tant que tu n'auras pas dit oui à ta misère, la miséricorde ne pourra pas t'épouser. Voilà pourquoi quand j'entends des discours du genre oh, « c'est extraordinaire de faire l'expérience de la miséricorde, oh, c'est formidable. » Ah bon, il n'y a que ça dans ce que vous dites là? C'est du pipeau. Parce que c'est une douloureuse joie. Tout est dit dans le psaume 50, nous sommes vendredi. Il est dit dans le psaume 50, « Mon péché est toujours là devant moi. » Et dans ce même psaume, il est dit « Rends-moi la joie d'être sauvé. » Alors s'il en est ainsi, mes amis, qu'est-ce que ça donne dans le concret? C'est hyper concret. Vous allez sortir avec cette ordonnance, et en plus elle est gratuite. Et monsieur Macron me dit merci, ça fait un trou dans sa sécu un peu moins. Vous allez être attentif aux ratés du quotidien. Tu sais, les trucs où tu te plais pas. Avec ta femme, un mot plus haut que l'autre, avec ton époux, enfin, tes enfants, tes énervements, tes précipitations, les trucs que tu rates. Les riens du quotidien où tu risques de tomber dans la détestation de toi. Le désamour de toi. La condamnation. Le psychiatre Viktor Frankl énonce une vérité qui devrait nous faire réfléchir. Il dit, placer un homme, une femme, placer une personne devant un miroir, enlever de la tête de cette personne toute idée de Dieu ou de démon. Vous pouvez dire à cette âme qui se regarde dans la glace, tu as devant toi le plus grand ennemi de toi-même. Et c'est en ce sens que nous avons un véritable secret, un véritable trésor. L'expérience de la miséricorde, mais l'authentique. Jean-Paul II, quand il est allé en Pologne, sur les pas de sa compatriote, il n'existe pas pour l'homme d'autre source d'espérance en dehors de la miséricorde de Dieu. Alors, concrètement, vous allez arrêter de mettre un mouchoir sur vos ratés pour les occulter du genre jouer l'autruche. Non, j'ai eu un bug, il y a eu un bug. C'est pas terrible, j'ai pas été terrible. Je le prends à bras le corps, mais je n'en reste pas là. Et qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire ceci, je m'en veux à mort. Je vous signale, ça rime avec remords. Avez-vous remarqué que quand on a fait une gaffe, il y a un petit truc corporel qui arrive souvent. Mince ! Et je suis poli. Et le remords, c'est quand tu te remords. C'est-à-dire que tu te complais dans la tristesse de la chute. Ne ratez pas vos ratés. C'est prendre à bas le corps vos ratés et les prendre. Voilà, c'est vrai, c'est ça. C'est, voilà. Et je ne me plais pas. Et ensuite d'en faire une offrande à la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de ne pas y coller, mais de permettre à Dieu de le prendre. Je vous cite une parole, pour moi les plus bouleversantes chez Thérèse, que vous ne trouverez pas dans les écrits, mais qui ont été rapportées par, à nouveau, la sœur Marie de la Trinité novice. Donc, au procès de canonisation, béatification, je ne me souviens plus. Marie de la Trinité dit ceci. Quel saint, en parlant de Thérèse, quel saint a-t-il parlé ainsi? Nous autres, me disait Thérèse, nous ne sommes pas des saints qui voulons passer notre temps à pleurnicher sur nos péchés. Nous voulons glorifier la miséricorde de Dieu par nos péchés. Heureusement qu'elle est docteur de l'Église. Je l'aurais mise à l'index. C'est un peu limite, vous ne trouvez pas? Non, c'est elle qui a raison. Le péché reste un péché. Mais la miséricorde est si puissante qu'elle est capable de ressaisir ton péché et si tu te laisses faire, d'en faire de la sainteté. Voilà. La puissance de la miséricorde. Mes amis, vraiment, j'insiste. C'est pas une sorte de figure de style de prédicateur. J'insiste lourdement. Vous adoptez cela au quotidien. Je ne vous en donne pas plusieurs mois pour que votre vie soit renouvelée. Que cette plus ou moins inconsciente détestation de vous-même à cause de vos chutes soit explosé en plein vol. Et vous allez goûter à la vraie vie. Vous m'entendez, les riens, pas les gros clashs. Visite d'abord les petits clashs. Après, tu pourras visiter les gros clashs. Cette semaine, ça a dû m'arriver, je crois bien. Je sais plus, à un moment. Ah oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Un tout petit mot, plus haut que l'autre, comme on dit, pas avec vous. Et après, Jésus me fait comprendre. Voilà. Eh bien, je n'en suis pas resté là. J'ai offert et j'ai duré dans l'offrande. Et il a fini par le prendre. Lorsque Dieu veut nous donner une grâce maintenant, vous voyez, il s'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il est pure lumière, donc il met en valeur, c'est comme ça, il ne peut pas faire autrement. La zone de ténèbres qui est en toi, bien. Maintenant, quand Dieu s'approche, il veut te donner. Si nous savions à quel point Dieu souffre de trouver peu d'âmes avec qui il peut répandre sa grâce. Les gens s'imaginent que Dieu est radin. Mais c'est très fort dans les inconscients religieux. Il est bonum diffusivum sui. Il est bien diffusif de lui-même. Dans le journal de Marthe Robin, elle a une vision. La pluie qui tombe du ciel. Et elle dit, je vis les âmes. Il y en a qui ont des véritables parapluies. les imperméables dicotènes, tu sais, dicotènes, t'as jamais de pluie, dicotènes, hein, les beurtons parmi vous. Et donc ils ont des véritables imperméables sur le dos, quoi. Comme dirait quelqu'un, la grâce ne mouille pas, quoi. Et puis il y en a qui, voilà. Sur qui c'est une pluie fine, parce qu'il dit, non, pas trop, approche-toi pas trop. Et puis il y a des âmes qui disent, voilà, vas-y. Et là, la pluie tombe, les grâces tombent. N'oubliez pas ceci, Dieu ne se donne qu'à la mesure de l'ouverture de ton cœur. Il n'y a pas plus poli que Dieu. Alors, à nouveau une antinomie. Il y a souvent, on va dire les choses en peu de mots, avant que Dieu nous donne une grâce, quelle qu'elle soit, grâce de pacification, un don, un charisme, je sais pas quoi, bon, plein de choses. Tellement, il y a tellement de dons. Eh bien, ce sera souvent précédé par une humiliation. Pourquoi? Parce que nous avons une tendance énorme à voler Dieu, à voler ses œuvres et à nous les approprier. Et pour que nous ne le volions pas, il nous plonge dans une humiliation avant de nous donner son don pour qu'on soit petit et humble pour recevoir le don de Dieu. Deuxièmement, cette humiliation, si je me laisse faire et que je n'en reste pas à l'humiliation, mais que je le vis avec humilité, que se passe-t-il? Mon âme s'élargit par l'humilité. S'élargissant, le don de Dieu va pouvoir rentrer dans une âme qui est forcément plus élargie. Père Marie-Eugène, dans son œuvre « Je veux voir Dieu », il évoque par exemple Nicodème, Le gars, il est hyper pro, l'exégète de service. Il connaît tout. La théologie, il connaît par cœur. Et il vient le voir. Et Jésus lui dit, il faut que tu renaisses d'en haut. Excuse-moi, j'ai pas appris ça en théologie. C'est quoi ton truc là? Toi, tu connais pas ces choses. Et tu es docteur en Israël. Quand tu étais sous l'arbre, je t'ai déjà vu. Le gars est humilié. Et là, en plus, il vient le voir de nuit. Et c'est un docteur de la loi. Donc c'est déjà une extrême humilité. Il vient pas en pleine journée parce qu'il a peur des autres docteurs. Mais il vient quand même. Donc il a déjà l'humilité. Jésus ne l'écrase pas. Il veut simplement l'ouvrir. Lui qui a une tête bien faite, il veut l'ouvrir à une réalité qu'il ne connaît pas. Et il lui dit, tu ne sais pas ces choses. Ben oui, forcément, tu ne sais pas ces choses. Parce que seul Dieu peut te les enseigner. Dieu donne ses trésors aux humbles, dit Père Marie-Eugène, tandis qu'il les dissimule aux orgueilleux, aux suffisants. C'est ce que proclament tous les maîtres de vie spirituelle, et plus spécialement ceux qui ont expérimenté l'action débordante de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila affirme, ajoute encore Père Marie-Eugène, je ne me souviens pas avoir reçu une seule grâce importante dont je vais parler par la suite, si ce n'est quand j'étais anéanti à la vue de mon extrême misère. Moi, je le vois dans ma vie. Quand il va me donner un truc, il y a une période où il y a un écrasement. Et si tu en restes, attention, note bien ça! Tu veux chercher à comprendre dans ces périodes-là. Faut pas chercher à comprendre. Parce que ce qu'il fait dépasse ta compréhension. Tu ne comprendras les choses que lorsque tu seras sorti du tunnel. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te fera comprendre ce que lui-même a fait. Retenez vraiment, vraiment, dans le truc qui précède, donc quand tu vis certaines périodes, tu vois, tu comprends pas. Et attention, c'est hyper immergé dans le concret. Ça va passer par ton mari, ça va passer par ta femme, ça va passer par ton travail, ça va passer par ta santé, ça va passer par les événements. Pourquoi on a de la peine? Parce que, à comprendre, parce qu'on imagine, voyez-vous, une nuée qui descend du ciel, style film de Cécile B 2000 avec Moïse là, hein. Mais c'est immergé dans le concret, la purification, dit le Père Marie-Eugène. Et nous avons des scénarios d'une intervention de Dieu. Bah, ça peut être que avec une nuée et puis des étincelles et puis des étoiles, quoi, une baguette magique, tout ça. Non, non. Lorsque Dieu nous envoie en mission, deuxième grande partie, la mission, l'évangélisation, n'est pas un hobby pour catholiques fervents ou quelque peu excités. Elle appartient à la carte d'identité de tout baptisé. Un disciple est un apôtre. Jean-Paul II. L'Église est missionnaire par nature, car le précepte du Christ n'est pas quelque chose de contingent ni d'extérieur, il est au cœur même de l'Église. Être apôtre aujourd'hui demande beaucoup de cran, parce qu'il faut sortir de nos petites sacristies confortables, et oser exposer notre foi autour de nous à un monde qui, pour une grande part, n'en veut pas. Une certaine présentation de la mission et même de la nouvelle évangélisation de ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II avec leur col romain et leur soutane, tout ça, on se dit « Ah là là, formidable, tu parles, faut voir, faut gratter, il y a du vernis là aussi, arrêtez de rêver. » Souvent, quand vous grattez un peu, quand vous entendez, il y a souvent une logique entrepreneuriale. Esclave des techniques de coaching, de marketing. Si nous ne prenons pas garde, nous nous laisserons emporter par ce discours sympathique qui n'est que sympathique, qui est du vent, parce qu'il est trop humain. Lorsque la grande mystique Marie des Vallées et Saint Jean Eudes se rencontrèrent, ce dernier lui confia son appel intérieur à fonder un séminaire pour la sanctification du clergé. Après avoir prié, Marie des Vallées répondit de la part du Seigneur que l'établissement qu'il projetait serait agréable à Dieu, mais que c'était Jésus lui-même qui le lui avait inspiré, qu'il le bâtirait sur trois fondements, la grâce, la divine volonté et la croix. Je vais retenir ce qu'on a parlé de la grâce depuis le départ, l'union à Dieu et la croix sont les deux grands critères fondements qui distinguent une évangélisation marketing d'une évangélisation selon le cœur de Dieu. Et là, il y a un gros problème actuellement sur le discours, sur la niveau d'évangélisation. L'union à Dieu tout d'abord, puis après la croix. Les ouvrages sur l'évangélisation ne manquent pas. Ils présentent tous des intérêts. Moi, je suis bon public. Je gobe. Mais on reste sur sa fin. Lorsqu'au terme d'une lecture, on constate que pour l'auteur, l'évangélisation semble se réduire à l'annonce. Et comme dans l'Église, on aime bien jouer au monde, on invente des nouveaux mots, ça fait intelligent, je comprends. Et on va parler, par exemple, d'un christianisme attestataire. Les gens du rural comprennent rien, mais ça fait du bien quand même d'utiliser des mots assez impressionnants. Bon, plus sérieusement, vous lisez le truc, tout est formidable. Attention, moi je pipe, je gobe. Sauf que, voilà, la nouvelle évangélisation n'est réduite qu'à l'annonce. Vous allez me dire, ça fait déjà un gros bol d'air par rapport aux anciennes générations où fallait pratiquer l'enfouissement à tout prix. Oui, c'est un gros bol d'air, mais c'est pas suffisant. Ce christianisme attestataire, s'il ne dépasse pas l'attestataire, risque de rester au seuil de la mission telle que Jésus la conçoit. Pour dire les choses sans précaution, quel est l'apôtre selon le cœur de Dieu? Celui qui, mieux que Lucky Luke, dégaine plus vite que son ombre des projets pastoraux, au risque de l'étourdissement et de la déperdition de sa vie intérieure? Ou ce prêtre, modeste, pas très attirant, pas de grand succès pastoraux, mais qui cultive la vie intérieure, l'union à Dieu, une pastorale de la sainteté? À chacun de répondre. Il y a une grande dévitalisation chez les prêtres qui ne vient pas du trop plein de travail. Bien sûr qu'il y a trop plein de travail. Mais qui vient d'une dévitalisation de leur vie intérieure. Pareil pour les religieuses. Réflexion puissante du cardinal Ratzinger. En 1986, il prêche une retraite, la communion et libération. Il est intéressant de rappeler que l'Église primitive, à la fin de l'ère apostolique, n'a organisé en tant qu'Église que relativement peu d'activités missionnaires. On en a plein la bouche aujourd'hui, ces trucs-là. Et je suis pour, vous devinez. Elle n'avait pas de stratégie propre de l'annonce de la foi aux païens. Pourtant, cette époque fut celle du plus grand succès missionnaire. La conversion du monde antique au christianisme ne fut pas le fruit d'une activité planifiée de l'Église. Mais celui des bons résultats de la foi, visibles dans la vie des chrétiens et dans la communauté de l'Église. La communauté de vie de l'Église invitait à participer à cette vie dans laquelle s'épanouissait la vérité d'où venait une telle vie. Bien évidemment, il n'est pas question d'idéaliser cette période, le christianisme primitif, ajoute-t-il, mais de se laisser questionner par sa vigueur. Et le cardinal de répondre, d'ajouter, pardon, « Inversement, l'apostasie de l'époque moderne repose sur la disparition de la constatation de la foi dans la vie des chrétiens. Nous ne ferons pas la nouvelle évangélisation dont nous avons aujourd'hui un besoin si pressant avec des théories aussi subtilement pensées fussent-elles. Seule l'union intime d'une vérité cohérente en soi et de sa mise en œuvre dans la vie peut faire briller cette évidence de la foi attendue dans le cœur humain. L'Esprit Saint ne peut entrer dans le monde que par cette porte. » La croix, second fondement de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que la mission ? Le Concile Vatican II le dit. La mission n'est pas notre œuvre. La mission, c'est l'explosion, le Big Bang du mystère pascal à travers les temps. Et notre rôle là-dedans, faire le moins d'obstacles possible au rayonnement du Big Bang, de la croix et de la résurrection du Christ. Il nous faut donc être coopérateurs de la rédemption et pas techniciens de méthode. Chacun devra pour sa part participer dans sa chair un petit peu à la croix de Jésus pour enfanter de l'évangélisation, de la mission. Pour les prêtres. Le mystère de la croix pour un prêtre ne peut pas simplement être célébré. Il doit y avoir un passage à l'existentiel. Et là est la grande faiblesse du discours sur la nouvelle évangélisation. Je suis invité à des congrès pour l'évangélisation, régulièrement. Heureusement, Jésus permet que je ne sois jamais libre. Parce que je regarde ce qu'il y a l'année d'avant. Je regarde les défilés et les thèmes. Il n'y a pas la croix, ce n'est pas la peine que j'y aille. Ça ne sert à rien. C'est tranché, je sais ce que je dis. Le pape Jean XXIII a écrit en 1959 une très belle lettre. Il n'a pas beaucoup écrit. À l'occasion du centenaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney. Il dit, À l'exemple des apôtres de tous les temps, le saint curé d'Ars voyait dans la croix le grand moyen surnaturel de coopérer au salut des âmes qui lui étaient confiées. Pour elles, il souffrit sans se plaindre les calomnies, les incompréhensions, les contradictions. Pour ces âmes, il accepta le véritable martyre physique et moral d'une présence presque ininterrompue au confessionnal chaque jour durant 30 années. Pour ces âmes qu'il aimait, il lutta en athlète du Seigneur contre les puissances infernales. Pour ces âmes, il mortifia son corps. Et l'on connaît sa réponse à ce confrère prêtre qui vint le voir et qui se plaignait. Réflexion tellement actuelle de la part des curés. Ça marche pas. Réponse du curé d'Ars à son confrère. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez gémi, vous avez soupiré. Mais avez-vous jeûné? Avez-vous veillé? Avez-vous couché sur la dure? Vous êtes-vous donné la discipline? Tant que vous ne serez pas là, ne croyez pas avoir tout fait. La crise profonde de l'Église est un déni de la croix. La présentation de Jésus, alléluia, Jésus est vivant, et il n'y a pas la présentation du crucifié, glorifié, sous prétexte qu'il est ressuscité, c'est un Jésus schizophrène. C'est un Jésus amputé. Et comme c'est Jésus qui est le moteur de l'évangélisation, comme on annonce un demi-Jésus, ne nous étonnons pas que l'évangélisation ne décolle pas. Écoutez, je vous partage quelque chose de très intime. Je ne veux pas vous mettre comme ça, mais ça a été une claque pour moi. Au tout début où je prêchais, après avoir été curé, je peux vous dire que comme curé, vous avez dû comprendre ce que je vous dis avant. Le marketing, je peux dire, je connaissais. Je savais ce que la clientèle voulait. Donc j'allais toujours dans le sens de la pommade, le sens du poil, quoi. Et puis je commence à prêcher. Hein? C'était pas ici. C'était dans un autre foyer. Donc, je faisais une retraite fondamentale dans laquelle, pour dire les choses simplement, on revisite les fondements et donc, bien sûr, le mystère pascal qui est central. La retraite était écrite depuis longtemps, tout était bien fait, pas de problème. Et là, au moment, un matin, je dois prêcher sur le mystère pascal. Et donc, je relis un petit peu avant d'aller voir les gens. Et je dis, et ça s'impose à moi, quoi. Tu ne peux pas dire ce que t'as mis. Il y a une insatisfaction. Et tenez-vous, j'ai réécrit la conférence d'une heure en un quart d'heure. J'avais mal au dos. J'avais mal au dos. Tout venait. Il y avait une sorte, un complet déséquilibre. On annonçait Jésus ressuscité, surtout pas à la croix, parce que la clientèle en veut pas. Et puis là, j'ai parlé de la croix, beaucoup plus. Puis comme je me suis laissé faire, je voyais bien que ce que j'écrivais n'était pas de moi. Mercedes était là vivante encore. Je lui ai rien dit tout ça. Elle était dans l'assistance. Il y avait derrière moi un crucifix, un grand crucifix. Et ceux qui ont connu Mercedes savent que, oh là, c'est pas du genre grand-mère qui se la joue. Hein. Ignorez-moi, s'il vous plaît. Elle était là, elle bougeait jamais. Et donc, je balais les gens. Tout d'un coup, je vois Mercedes qui sursaute un petit peu. Donc je continue, je dis, tiens, c'est curieux. Et après la conférence, elle savait pas que j'avais tout changé, que j'avais intégré la croix en un quart d'heure. Elle dit, mon père, il faut que je vous le dise. Pendant la retraite, pendant la conférence, le crucifix qui était derrière vous, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, on parle de moi. Il n'a pas dit Joël Guibert, mon célèbre, je sais pas quoi. On, bah, on. Et surtout, le très important, c'est on parle de moi. Ça veut dire que Joël Guibert, en faisant de la pommade et du marketing, et en parlant pas de la croix, il ne parlait pas du vrai Jésus. C'est ce que Jésus disait. La nouvelle évangélisation sera crédible quand il y aura la réintégration de cette dimension sans complexe. Il y aura une vraie formation des novices et des séminaristes quand on réintégrera cela. Je vous donne un autre truc de Mercedes. Ça, c'est pour les prêtres et consacrés. Mercedes avait une vocation, elle priait la nuit. Il ne la faisait pas dormir pour qu'elle intercède. Elle qui voulait être religieuse et que Dieu n'a pas permis, qu'il a fait se marier. Qui était abandonnée par son mari après. Bon. Et un jour, elle vient, parce qu'elle était assez sévère avec le sacerdoce, parce qu'elle avait, Jésus lui montrait la haute idée du sacerdoce. La présentation du sacerdoce, comme on voit sur certains sites de vocation à travers la France, parce que c'est un agent pastoral. Bah, allez-y, les amis, vous aurez des vocations avec ça. Et un matin, elle vient et elle qui était quand même assez exigeante, si vous voulez, pas dure, mais très exigeante avec le sacerdoce. Jésus, dans un colloque qu'elle avait eu la nuit avec Jésus, Jésus lui a fait comprendre, et donc elle rapportait comme ça avec des mots. Elle dit, c'est pas tous de leur faute, les prêtres qui quittent le sacerdoce. Ben, dis donc, Mercedes, c'est pas souvent que je vous entends parler comme ça. Dites-moi davantage. Voilà ce que Jésus m'a montré. C'est que dans les séminaires, les gens veulent bien faire, mais ils ne leur disent pas la croix. Ils leur disent, vous verrez plus tard, vous ferez des choses sympathiques, vous me ferez des mini-camps, vous mettrez des gens en mouvement, comme on dit. Tout ça, ce sera sympathique. Mais on leur dit pas que la croix est plantée au cœur de leur sacerdoce. Et quand ils deviennent prêtres, les choses sympathiques, au bout d'un moment, sont pas toujours sympathiques. Et ces prêtres quittent le sacerdoce, pensant qu'ils se sont trompés. Mercedes ajoute, se sont-ils trompés ou les a-t-on trompés? Attention, chers amis, ceci vaut pour les laïcs qui est hyper investis dans la pastorale et l'évangélisation. C'est la même gangrène pour vous. Padre Pio. Padre Pio. Oh, vous aimez pas? Pour moi, c'est le lourd du lourd. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le plus grand saint de tous les temps. Il disait, si l'on savait le prix d'une âme, les âmes ne sont pas données en cadeau, elles s'achètent. Vous ignorez ce qu'elles coûtèrent à Jésus. Aujourd'hui, c'est toujours avec la même monnaie qu'il faut les payer. Moi, j'ai pas trop choisi, j'ai pas découvert ça parce que je suis fut-fut. Il a mis des gens sur ma route. Et puis il m'a imposé ça. Au tout début où je prêchais, j'allais voir les prédicateurs. Je leur demandais, est-ce que vous souffrez? Non. Oh, c'est bizarre. J'arrive du Rwanda, il y a quelques mois. J'ai prêché une retraite sacerdotale. Et le vicaire général m'a donné la statut de Kibéo, apparition officiellement reconnue. La Vierge dit, je ne viens pas que pour le Rwanda. Et elle ajoute, je ne viens pas que pour l'Afrique, je viens pour le monde. Et elle dit, Vous savez que cette apparition a eu lieu avant les ruisseaux de sang du massacre, où j'ai dû y aller d'ailleurs. Heureusement, je n'avais pas trop mangé le matin. Elle dit, le monde entier court à sa perte. Il risque de tomber dans un gouffre. Quant à l'Église, la Mère de Dieu dit à Alphonsine, de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. Et dans ce même message, la Très Sainte Vierge rappelle la place de la croix, de la souffrance offerte au service de la conversion des pécheurs. Et elle enseigne aux jeunes voyants, Alphonsine était étudiante, jeune étudiante, comment il faut qu'elle fasse de la mortification pour la réparation, pour la conversion des âmes. Discours, dites-moi où vous l'entendez. Même dans les lieux de pèlerinage où on devrait parler de la réparation, on n'en parle plus. L'enfant de Marie, dit la Vierge, ne se sépare pas de la souffrance. J'ajoute, il ne nous est pas demandé de nous inventer des souffrances. On en a déjà assez comme ça. Ce qui est dit par Jésus, ce que j'essaye maladroitement de vous dire, arrêtez de jeter à la poubelle toutes vos petites souffrances du quotidien. Jésus le veut, les veut. Mais attention, une souffrance, ça produit pas de la grâce. Automatiquement, ça produit de la grâce quand c'est offert joyeusement, même si on a mal. Moi, vous croyez que dans les retraites, c'est toujours avec beaucoup de joie. Oui, ça se transforme en joie quand c'est offert. Je vous signale que même à un simple niveau psychologique, le fait d'offrir une souffrance la tient à distance, donc tu souffriras moins. Je ne suis pas doloriste, je ne suis pas masochiste. Je voudrais récupérer au nom de Dieu tout ce que vous foutez à la poubelle au quotidien et qui est perdu. Rappelez-vous la pierre dans le livre sur Mère Teresa. Ce qui n'est un proverbe indien, ce qui n'est pas donné est perdu. Et vous allez voir au passage, vous aurez moins mal parce que quand c'est jeté à la poubelle, ça fait mal. Parce que tu peux pas l'enlever, parce qu'il n'y a pas de sens. Tandis que dans l'offrande, il y a du sens. Parce que dans l'offrande, il y a de l'amour. Et l'amour va colorer, habiter, changer tes souffrances. Je vous le dis très simplement, il faut encore descendre dans l'Église pour découvrir cette dimension-là. Il faudra être très bas. Et là, on va crier vers le ciel, parce qu'il n'y aura plus de solution humaine. Des techniques de coaching, de marketing, de pseudo-évangélisation. Tu toucheras du doigt, ça marche pas du tout. Maintenant, reviens aux essentiels. Jésus, le vrai Jésus, inséparablement crucifié et glorifié.